Cette semaine à la vie en BD, on est en mode club de lecture autour des rois et des tyrans. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver et toujours un plaisir également puisque je regarde mes collègues qui sont avec moi de les retrouver également puisque cette semaine nous sommes en mode club de lecture. Alors j'ai mes trois libraires en résidence qui sont avec moi, trois libraires de chez Pantoute par ailleurs et je les salue au passage. Alors Émilie Roy-Brière, bonsoir.
Bonsoir Raymond.
Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Marco Duchesne, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, évidemment, club de lecture, je rappelle un peu le fonctionnement pour ceux dont c'est la première fois, sait-on jamais. Évidemment, vous pouvez toujours aussi aller sur lavieenbd.com. Tous les clubs de lecture sont archivés. Alors, il y a sûrement un moment donné où j'ai expliqué les règles de façon particulièrement brillante et exprimée avec des termes clairs. Mais cela étant dit, donc, à chaque mois, l'un de nous quatre choisit une thématique et ensuite, les quatre lecteurs, lectrices choisissent un album qui est rattaché, qui est en lien à la thématique. Et comme ça, soit on se force à relire des titres qu'on a déjà lus, soit on se force à découvrir des titres qu'on n'a jamais lus. Et ensuite, on en parle pendant une heure ici à La Vie en BD. Et ce mois-ci, la thématique qui avait été proposée, elle est proposée par Édouard. Ça s'appelle « Sic Semper Tyrannis, abat tous les tyrans ». Donc, je mentionne rapidement les quatre albums qui seront discutés cette semaine. Et ensuite, on commence à vous les présenter. Alors, dans le désordre, Persepolis de Marjane Satrapi à l'Association. On a Zé, une tragédie africaine d'Apollo et Bruno chez Dargo. Il y a également le Strumpfissime de Peyo chez Dupuis. Et enfin, une histoire de Juge Dredd, le jour où la loi est morte. Et ça, c'est de, et je fais la liste, John Wagner, Mike McMahon, Brett Ewin, Brendan McCarthy, Brian Boland, Gary Leach et Ron Smith. Et c'est disponible du côté de Delirium, notamment dans les intégrales de Juge Dredd où on l'a retracé. Alors voilà donc pour les quatre titres. Et je le disais, Édouard, évidemment, il y a un peu de latin dans le thème et c'est toi qui l'as choisi. Alors, je te laisse l'honneur peut-être de nous présenter un peu l'esprit du thème et ensuite, tu feras un classique segway vers ton album à toi.
Ben oui, hein, Sic Semper Tyrannis, la locution, en fait, qu'on aurait attribuée à John Wilkes Booth, assassin de Lincoln, en fait, qui l'aurait crié, en fait, avant de tirer sur Lincoln, si on veut la petite histoire. Bon, on peut s'obstiner sur la conception que Wilkes Booth avait d'un tyran, puisque, c'est quand même Abraham Lincoln. Mais reste que je trouvais quand même la phrase, disons, porteuse pour le thème, justement, que je voulais amener ce mois-ci, qui est vraiment... la convergence d'abord de l'apparition du dernier Bruno, ce qui pour moi est toujours un peu comme un petit Noël personnel depuis Tyler Cross. Toutes les fois que Bruno touche à quelque chose, c'est mon petit plaisir. Et donc, c'était clair que je ne pouvais pas passer à côté justement, de l'apparition d'un nouveau Bruno, mais qui en plus traitait justement de dictature, de tyrannie, ce qui est triste à convenir, mais qui est malheureusement dans l'air du temps. Si on regarde ce qui se passe maintenant encore en Iran, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, donc voilà, je pense qu'on est dû malheureusement pour se plonger un peu là-dedans. Je pense que c'est malgré les décennies, malgré les siècles, malgré qu'à chaque époque, à chaque nouvelle génération, on ne se dit plus jamais, on se dit non, encore une fois, on se retrouve à travers la planète avec justement un paquet de peuples comme ça qui vivent sous le joug, qui vivent comme ça, privés des libertés, je dirais, fondamentales. Et donc, c'était pour moi aussi, je pense, important d'avoir un thème qui est un petit peu en lien avec tout ça. Et donc, ça tombait extrêmement bien, puisque justement, j'ai choisi pour ce soir, donc, c'est une tragédie africaine. Extraordinaire album, il va sans dire, mais encore une fois, comme disait moi, Bruno, tout ce qu'il touche, pour moi, ça devient de l'art, mais qui, en plus, va aller puiser justement dans le passé aussi d'Apollo, qui est lui-même, je crois qu'il est né en Tunisie, donc a vécu lui aussi certaines dictatures comme ça dans sa vie, et qui va nous mettre en place j'oserais dire une fable, parce que c'est vraiment l'amalgame, en fait, d'un peu toutes les dictatures qui, par dizaines comme ça, ont déchiré l'Afrique depuis maintenant un peu plus de demi-siècle. Et donc, c'est un peu vraiment à la rencontre de tout ça qu'on va présenter, justement, tu sais, épitome du dictateur africain, s'il en est. Alors que ce vieux léopard, cet unificateur comme ça du pays, va, au tout début de l'histoire, mourir, en fait, tout bonnement, et les rumeurs vont sortir comme ça, que, tu sais, le vieux léopard est mort, et maintenant, ce pays qu'il tenait à bout de bras est en émoi, et c'est vraiment de l'intérieur, en fait, à travers les yeux de ceux qui étaient les proches du dictateur, qu'on va voir comme ça la fin d'un régime, le crépuscule, en fait, d'une dictature vraiment inspirée, justement, des dictateurs africains.
Voilà. Et d'ailleurs, enfin, on peut mentionner, Edouard, dans ton cas, on voit la fin d'un régime. Dans le cas des sélections de Marco et d'Émilie, on voit la fin et le début également. Dans mon cas, j'ai choisi le début d'un régime et peut-être qu'en regardant les nouvelles, on est en train d'en voir la fin. Sait-on jamais? Alors, de mon côté, j'ai été inspiré justement par le côté actuel de ce thème-là et je m'étais prévu justement de relire Persepolis de Satrapie, qui est un des albums qui, je trouve, présente de façon brillante la mise en place d'un régime peut-être un peu plus fondamentaliste, plus dictatorial, plus fondamentaliste à bien des égards. Donc, qui était celui de l'Iran, donc dans les années 70. Et évidemment, Persepolis, c'est un album, je crois, que beaucoup connaissent. Ceux qui ne l'ont pas lu peuvent peut-être se sentir coupables de ne pas encore l'avoir lu et aller le lire, mais ça reste excellent, donc où on mélange le trait personnel, donc le récit de l'autrice, au bout du compte, qui nous raconte son enfance et qui, à travers son regard d'enfant, bien, nous fait découvrir la montée de cette dictature qui a été mise en place donc en des temps jadis en Iran. Donc, pas à pas, geste par geste, instance par instance, on prend conscience de tout ce qui est transformé, mais contrairement à d'autres titres dont on discutera ce soir, bien, je le disais d'entrée de jeu, donc on n'en sait pas la fin. Elle finit par fuir justement ce pays-là qui la contraindrait à être autre chose qu'elle-même, au bout du compte, pour aller ailleurs étudier, mais toujours en restant très proche de ça. Et évidemment, on explore aussi justement l'idée de l'exil rattaché à tout ça, donc dans la deuxième partie de ce livre-là. Bref, le film est excellent, la BD est excellente, ça me faisait plaisir de la relire, d'autant dans l'actualité. J'espère que ça vous a fait plaisir également de votre côté. Et parlant de relecture, d'ailleurs, Marco, toi, tu nous es arrivé avec un classique devant l'éternel, en fait, le schtroumpfissime. En fait, on pourrait dire, tu nous as fait schtroumpfer le schtroumpfissime de Peyo. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à schtroumpfer ce schtroumpf-là?
En fait, ça a été automatique. Quand Édouard, je me rappelle, à la librairie, a envoyé son thème, je suis descendu et tout de suite, j'ai regardé le schtroumpfissime et je me suis dit, ah oui, OK. C'est exactement ça, le truc. Et en fait, ce que j'adore de chez Peyo avec sa série Les Schtroumpfs, c'est quelque chose, c'est une série qui, même qui date des années 40-50 la plupart du temps, et qui continue encore après sa mort, mais ses premiers albums sont encore d'une grande actualité. Le Schtroumpfissime est un... En fait, c'est... Tout à fait dans le thème, un dictateur va imposer sa loi et sa vision de la société. Mais en plus, c'est un petit manuel de la façon de procéder. Et c'est via la démocratie, parce que le Schtroumpf, qui va devenir le Schtroumpfissime, va vouloir se faire élire et faire des promesses. Et ces promesses-là ne seront jamais tenues. Et il va instaurer un régime dans lequel il va être le seul maître. Et je trouve que c'est encore d'actualité par rapport à tout ce qu'on vit, même nous en démocratie et tout, avec tous ces politiciens qui promettent des choses mais qui finissent au pouvoir et font ce qu'ils veulent, même en démocratie. Alors, je trouve que c'était l'album qui allait servir le plus le thème.
Et vous comprendrez qu'on est, comme à l'habitude, en fait, dans des styles quand même assez différents, quoique il y a des rapprochements, mais à tout le moins dans les origines, dans les auteurs, dans les genres. Et il y a toujours quelqu'un qui va vers le comics ou vers le manga. Ce mois-ci, c'est vers le comics qu'on y va. Et c'est Émilie Roy-Brière qui nous y amène par l'intermédiaire de Judge Dredd avec donc le récit « Le jour où la loi est morte ».
Oui, mais en fait, je suis probablement la plus grande fan de Judge Dredd devant l'Éternel ici. Puis de les avoir lus coup sur coup, je trouvais ça épouvantablement drôle parce que à la fois dans Le Strumpfissime et Judge Dredd, on suit sensiblement les mêmes étapes jusqu'à la dictature. On va avoir une espèce de figure d'autorité qui disparaît, qui est remplacée par quelqu'un d'autre, Le Strumpfissime dans le cas de Peyo, puis Judge Cal dans le cas de Judge Dredd, le fameux Judge Cal qui va aller s'entraîner des gros bras, va aller promulguer des lois de plus en plus répressives jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de rébellion secrète qui finisse par s'opposer au pouvoir. Les deux coups sur coups, c'était quand même une drôle d'expérience.
Oui, ben en fait, même j'aurais envie de dire les quatre coups sur coups, c'était quand même une drôle d'expérience aussi. Et quelques mots peut-être sur l'album. En fait, quand même, qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là, Émilie, spécifiquement?
Parce qu'en fait, une des choses que j'aime le plus de Judge Dredd, c'est que généralement, on n'invente rien. J'ai lu Dracula, revisité par Judge Dredd. Puis là, je relisais, en fait, le règne de Caligula, revisité par Judge Dredd. T'sais, Judge Cal, c'est un clin d'œil absolument pas subtil à Caligula, à la splendeur de Rome. Puis bon, finalement, le dictateur qui décide de tout détruire pour conserver la ville dans sa splendeur telle qu'elle est sous son règne ou quelque chose comme ça. Puis à chaque fois, je suis complètement bluffée. Je me dis, merde, mais ils inventent rien. J'ai absolument pas de surprise. Mais pourquoi est-ce que j'ai du fun de même? J'ai ri à voix haute pendant toute cette bande dessinée-là. Même chose pour La Terre maudite, qui est une autre aventure que j'adore. Donc voilà, j'ai tout mon amour que j'ai dit à Judge Dredd et au scénario absolument impeccable de Wagner.
Et ce qui est merveilleux ce mois-ci, auditeur, auditrice, c'est que habituellement, dans le fond, un de nous trois choisit le thème et c'est Édouard qui mène la barque et on découvre où Édouard nous amène. Et cette fois-ci, ben Édouard, tu es littéralement le maître à bord. Tu es notre tyran personnel pour l'heure, puisque non seulement tu as choisi la thématique et tu as donné le ton avec ton choix d'album, mais c'est également toi qui vas nous guider et tu as sûrement fomenté un plan étape par étape pour nous mener d'un album à l'autre jusqu'au paroxysme de cette émission qu'on vivra même dans une quarantaine de minutes.
Alors, il va sans dire que hein, je saute sur toutes les occasions possibles de pouvoir exercer la tyrannie, hein, ce qui est quelque chose qui est un plaisir personnel comme ça que j'entretiens depuis des années. Mais blague à part, en fait, je me suis dit, bon, encore une fois, les approches sont variées, on pourrait y aller dans l'ordre, dans le désordre. Allons-y en entonnoir. Allons-y avec la perspective, parce qu'en fait, reste que, justement, dans les quatre, autant que les approches graphiques, justement, sont diamétralement différentes, autant que, comme Anna Arendt elle-même l'avait bien défini quand elle avait écrit sur le totalitarisme et tout, je veux dire, les éléments constituants d'une dictature, d'une prise de pouvoir, d'une tyrannie comme ça, restent fondamentalement les mêmes. Ce qui change ici dans nos BD, c'est le truchement de ceux, à travers les yeux de qui on va voir cette aventure-là. Et donc, allons-y en entonnoir, commençons peut-être par la plus intimiste, c'est-à-dire T, où on va vraiment justement être dans l'intimité de ce pouvoir-là. Hein. Donc, comme je le disais, alors que T, comme ça, que les rumeurs justement courent à travers le pays qui préfigure hein, une espèce de république centrafricaine, et T lui-même, je veux dire, comme je disais, qui est une allégorie, on revoit très, très bien. Il ressemble à Idi Amin. Il porte le même capot hein, en léopard que Mobutu. Règne un peu comme un Bokassa. Donc, on voit vraiment la marque des grandes dictatures africaines à travers lui. Et donc, justement, alors que les rumeurs hein, courent comme ça, bien là, on va voir Hippolyte, un de ses fils. On va voir Bobby, sa nouvelle épouse hein, qu'on aurait pu prendre pour une femme trophée, mais qui, au contraire, se révèle une redoutable politique avec un agenda bien arrêté aussi derrière tout ça. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé, parce que sans être, disons, un expert, j'ai quand même eu la chance de lire un peu à travers le truchement d'Amadou Kourouma, d'Emmanuel Dongola un peu, comment elle se goupille justement des dictatures, et c'est absolument phénoménal comment Bruno et Apollo ont compris ce système-là, ont compris comment comment ça s'est mis en place, hein, un peu comme une réponse au système afin dans la foulée du post-colonialisme, alors que l'Occident laissait ces pays-là comme ça complètement dévastés, complètement chaotiques, et que arrivaient ces espèces d'hommes providentiels, d'hommes miracles qui promettaient la paix, qui promettaient le rétablissement d'une certaine stabilité, et au nom de quel, au nom de quoi justement tout le monde est prêt à se sacrifier essentiellement. Et c'est pourquoi j'ai vraiment, moi, comme dévoré une fois encore là, ce magnifique, magnifique album.
Oui, fait un magnifique album, je suis d'accord avec toi, en fait, d'un point de vue visuel, d'entrée de jeu, avec un traitement qui est en toute simplicité, au bout du compte, très efficace. Et je pense que le terme intimiste est intéressant aussi, puisqu'on vit la fin du régime de l'intérieur, au bout du compte. Donc, c'est à travers la perspective, à travers les réactions de cette galerie de personnages-là, face à la fin du régime, face à l'expectative de ce qui va arriver ou de ce qui va se terminer, qu'on les découvre. Et en même temps, à travers ce regard-là et à travers les lieux qu'ils occupent, puisqu'ils sont dans le palais présidentiel, dans le fond, qui est Versailles dans la jungle, j'ai bien aimé l'expression, dans le fond, une espèce de capitale bâtie au milieu de nulle part, simplement pour montrer la richesse à l'européenne, à l'américaine, pour servir d'ostentoire, dans le fond, à la gloire de ce dictateur-là. Donc, le lieu lui-même, le regard sur les personnages nous permet aussi de découvrir, tu sais, et de se forger nous-mêmes une opinion à partir d'une variété de perspectives. Donc, c'est ce qui enrichit, je trouve, la compréhension qu'on aura de cette personne-là, de son chemin et de son inéluctable chute. Donc, c'est effectivement un récit qui est richement, qui est parfaitement maîtrisé, là.
Mais ce qui rend le truc le plus intéressant, c'est cette fameuse vision. Du fils, entre autres, qui discute surtout avec, je ne me rappelle plus de l'autre personnage, et c'est tout le temps ce rapport-là à l'intérieur même. Bruno nous a habitués à des documentaires comme avec Nuri, avec le sniper américain, où là, de l'extérieur, on pouvait voir un peu tout le déroulement de la biographie du fameux sniper, mais ici, on est vraiment à l'intérieur avec le fils qui discute justement avec... Et la plupart du temps, c'est ça, là. Et là, qui discute de la situation de cette mort-là et de l'héritage qui s'en vient et de qu'est-ce qu'on va en faire. C'est surtout ça la force de cet album-là.
Oui, parce qu'en termes d'action, c'est tout est dans la discussion. Puis à travers la discussion, mais les personnages, les perspectives, l'état de situation, l'urgence.
Et même à ça, ça prend juste Bruno pour faire de l'action dans les discussions. Là. Et il l'anime quand même. C'est quand même animé. C'est difficile à exprimer sans qu'on l'ait lu. Je veux dire, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu... C'est difficile à exprimer, mais Bruno, c'est ça, sa force au niveau narratif, de rendre des discussions genre animées, qu'on arrive à voir en action. C'est tout un petit chef-d'œuvre, ça. À chaque fois qu'il en fait un, d'ailleurs.
C'est une question de rythme. Hein? Tout est dans le rythme. Puis ici, on sent justement que la dictature est en train de finir. Et là, c'est la course contre la montre. Et c'est ce qui nous rend, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir, c'est ça, des tanks ou tout est dans cette rythmique, cet enchaînement-là où on sait que là, les heures, les jours sont comptés, puis il faut réagir parce que si nous, on ne réagit pas, il y a quelqu'un qui va le faire à notre place. Là,
oui, puis en fait, le fait d'avoir placé l'intrigue d'ailleurs dans ce palais-là et d'avoir placé ce palais-là loin dans le pays justifie aussi peut-être cette attente-là. Dans le fond, et à un moment donné, je pense qu'il y a des personnages qui l'abordent, qui disent ben, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'on est encore là, ils vont venir l'attaquer, mais ça ne sera pas demain, ça ne sera pas dans une semaine. On a encore des jours parce qu'au bout du compte, ils sont au bout du monde, puis au bout du compte, mais ben, dans le fond, tant et aussi longtemps que le dictateur est mort, ben, eux-mêmes n'ont plus nécessairement d'importance autre que la symbolique de ce palais-là et la symbolique de ce lieu-là, mais éventuellement pour détruire et passer à autre chose, ben, faudra un peu comme le dictateur avait détruit la capitale par impuissance pour détruire le symbole de la rébellion, ben, autant les rebelles devront détruire son symbole à lui aussi en cours de route.
Et aussi, à l'entre-deux, ça suspend le temps. Oui. Le fait qu'on ne décide pas tout de suite de ce qui va arriver, ça suspend le temps, donc on a le temps de réfléchir et de passer à une stratégie.
Émilie?
Oui, mais ça ouvre les perspectives, en fait, parce que moi, en fait, ça me rappelait une lecture que j'avais faite. C'était David Graeber qui citait je ne sais plus trop qui dans Bullshit Jobs. Cette personne-là disait tous les matins quand on se lève, on construit un monde. Si, en te levant demain matin, tu fais construire un monde, est-ce que tu construirais réellement celui dans lequel tu vis en ce moment? Puis, en fait, avec Dé qui est mort, ça va justement élargir les perspectives parce qu'on fait table rase du passé. OK, parfait, le dictateur est mort. Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir, l'ami d'Hippolyte, qui est la fille de révolutionnaire, qui dit, bon, ben c'est beau, parfait, il est mort, excellent. On redonne le pouvoir au peuple. Allez, on prend des armes. Go, 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 tout le monde, on y va. On va avoir justement la femme de Dé, qui est Bobby, je crois, qui, elle, en fait, bon, mais parfait, Dé est plus dans ses pattes. Elle se dit, excellent, on va aller soudoyer tous les chefs de guerre. On va s'assurer de maintenir le pouvoir en place, sauf qu'à la place de Dé, maintenant, c'est moi. On va avoir Hippolyte. Hippolyte qui aimerait faire quelque chose de bien, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas super décidé dans comment il veut le faire ou qu'il est plus... qui est plus posé dans ses attentes. Puis, il y a leur ami qui est d'origine libanaise qui, lui, en fait, n'importe quoi, tant que ça lui permet de continuer à jouer à la PlayStation, ça va, il n'y a pas de problème.
C'est la nature des personnages qui va définir leur vision, qui va définir la nature de leur action ou de leur inaction par rapport à ce qui est en train de se passer aussi.
Et c'est là la beauté, parce qu'on est au cœur du pouvoir, hein, puis on se rend compte que même dans la plus haute sphère, même ceux qui détiennent justement potentiellement le grand pouvoir sont finalement eux-mêmes emportés par le flot des événements, par le flot de ce qui se passe. Et dans le fond, le vrai cœur du pouvoir ne réside pas tant dans ces figures-là, mais dans ceux qui les entourent, dans la garde prétorienne, j'ai envie de dire. Et c'est pourquoi, justement, Judge Dredd a une histoire, une perspective qui est aussi intéressante. Bon, Émilie l'a très bien dit. Je veux dire, on ne peut pas ne pas voir Caligula dans tout ça. D'autant plus que, bon, le clin d'œil, hein, quand il nomme un poisson comme haut juge, je veux dire, c'est clairement le fameux cheval que Caligula avait nommé comme sénateur. L'ampleur, bon, de justement de son délire qui se rapproche beaucoup de celui de Néron aussi, hein, qui voulait brûler Rome, faire une nouvelle Rome. On rentre dans le Sudétone, on rentre, disons, dans les grosses symboliques. Mais ce qui est le fun, encore une fois, c'est que justement, et on le voit, bon, sans qu'il y ait une révolte, bon, des juges qui gravitent autour de Cal, c'est encore une fois, c'est la garde prétorienne, c'est eux qui se posent les questions, qui disent là, un moment donné, faut-tu se révolter, faut-tu changer. Et dans le fond, ici, la population de Mega City et elle, accessoire à tout ça, on s'en sert, bon, comme chair à canon, mais je veux dire, au-delà de ça, ceux qui déterminent, dans le fond, qui est au pouvoir, qui dirige, c'est même pas la loi, parce qu'encore une fois, la perspective de la loi est complètement différente qu'on parle de Dredd ou qu'on parle de Cal. Et donc, c'est même pas cette loi divine, dans le fond, qui dirige tout, c'est la garde prétorienne. C'est ceux qui ont les armes, c'est ceux qui définissent la réalité telle qu'on va la vivre dans cette dictature-là. T'sais.
Ce qui est fascinant, c'est la mise en abîme de... tu sais, il y a Mega City, puis il y a quand même un pouvoir au-dessus qui a nommé les juges qui a nommé les juges, ce qui fait que les juges, eux, Dredd... Et sa bande, ils ont le pouvoir absolu, là. Ils sont policiers, avocats, juges et bourreaux, tu sais. Alors, ils décident sur place, sur le terrain, ils décident qui va périr et qui va... Tu sais, c'est une espèce de mise en abîme, là, de ça. Et je trouve ça fascinant, moi. Toutes ces séries-là, là, je trouve ça fascinant parce que déjà là, les juges sont déjà des espèces de dictateurs en puissance.
Parce que dans le fond, le crime de Judge Carl, c'est de s'approprier la loi puis d'en faire la loi d'un seul homme. Mais en fait, dans Judge Dredd, la loi est déjà la loi d'un seul homme. Puis les personnes qui vont s'opposer à lui, ça va être des instructeurs à l'Académie des juges. Donc, c'est les professeurs de la loi qui ont finalement... qui ont finalement de quoi reprocher à un de leurs élèves.
Oui, puis en fait, c'est ce qui pousse un peu son principe de départ, dans le fond, sur le concept du juge, puis il pousse un peu plus loin, où, dans le fond, jusqu'à quel point, dans le fond, on accepte une dérive, on accepte des choses qui sont de façon claire et évidente. Et peut-être dans les dictateurs qu'on découvre, dans le fond, Cal, je veux dire, il est presque caricatural, il en est presque ridicule, tellement, c'est justement, tu le disais, on est dans l'archétype du dictateur qui fait l'archétype des actions. Et ce qui est toujours fascinant dans ces livres-là, et autant dans les autres, c'est à quel point, dans le fond, les gens restent quand même fidèles à ce type-là, et à quel point, au bout du compte, les juges, parce que l'ordre établi, parce que la hiérarchie, parce que le système qui est en place fait que on se range derrière une autorité, même si de façon claire et évidente, cette autorité-là n'a aucun sens et ses actions n'ont plus de sens et sont en train de dénaturer même les fondements de la dictature qui est en place et donc de l'équilibre de ce monde-là à proprement parler. Un peu comme on peut l'imaginer, des gens se rangeaient derrière Caligula à une certaine époque ou Néron quand il est en train de devenir fou. Il y avait quand même, justement, comme tu disais, Edouard, cette garde prétorienne qui était là et qui légitimait ce pouvoir-là. En anglais, on dirait aussi qui « enable », donc qui donnait une capacité à cette folie-là d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait à faire, à place de simplement la tuer dans l'œuf puis de reconnaître que la situation n'a pas de sens. On tasse, on voit autre chose. Évidemment, il n'y aurait pas de BD, mais évidemment, ça ne serait pas un reflet réel du monde si ça finissait rapidement bien et qu'on était capable d'identifier prestement le problème. Et c'est le genre de truc qui, à la fois, dans le fond, je veux dire, on grince par le ridicule de la situation, par la nature de cette dictature dans une dictature-là, mais quand on prend un pas de recul, ça reste des constats assez tristes, au bout du compte, sur notre monde, parce que au bout du compte, ça se passerait probablement un peu comme ça dans la réalité, puis il y a des gens qui seraient prêts à suivre quelqu'un jusqu'au bout pour des raisons qui dépassent la raison elle-même.
C'est l'illusion du contrôle, hein, comme je te dis, ces gens-là sont juste en dessous du pouvoir, et là, en plus, on a un dirigeant qui est visiblement pas très stable mentalement. Donc, on a toujours cet espoir, cette illusion que c'est nous, dans le fond, l'éminence grise qui contrôle ce pouvoir-là. Et vous remarquerez que, justement, tu sais, malgré l'espèce de contrôle hypnotique que Cal a sur les juges, là où on commence à changer un peu la perspective de ceux qui évoluent autour de lui, c'est quand il va chercher cette espèce de peuple de mercenaires qui ont l'air des alligators. Et là, c'est comme on change la garde rapprochée du dictateur. Et là, tout d'un coup, même ceux qui étaient le plus proches de lui commencent à se poser finalement, il faudrait peut-être le renverser parce qu'eux aussi sont en train de voir leur équilibre qui est parti. Et c'est exactement ce qui est arrivé, je veux dire, à Rome, c'est ça qui est arrivé à Caligula, c'est ça qui est arrivé à Néron. À un moment donné, c'est que leur folie était rendue tellement, tellement grande que celui qui maintenait en place la force de ce pouvoir-là n'était plus capable de se reconnaître là-dedans. Ils commençaient à craindre eux-mêmes pour leur propre. Ça a été ça avec les purges staliniennes, où il a fait le vide autour de lui complètement. Où un moment donné, on le voyait, tous ceux, Beria ou autres qui acceptaient de marcher avec Staline, c'est parce que si tu ne marches pas avec lui, tu vas te ramasser sur la liste. Fait qu'un moment donné, le choix commence à être un peu plus facile et c'est la force de Dredd, justement, d'être cet intransigeant qui, lui, ne laisse jamais rien passer, même cette usurpation-là, dans le fond.
Pour rebondir un peu sur ce qu'Edouard disait, ce que je trouvais particulièrement drôle, c'est que justement la garde rapprochée de Judge Cal, juste avant que les Clegg débarquent, commencent à sentir la soupe chaude. Puis ce que je trouve absolument hilarant, c'est qu'on essaie de manipuler Judge Cal en lui disant que c'est des ordres qu'on a reçus de Judge Fish, qui est son poisson rouge. Puis Judge Cal n'ose pas les contredire parce qu'il veut que ses hommes continuent à garder confiance en Judge Fish. Je trouvais ça absolument génial.
Donc, quand même, assez extraordinaire. Mais justement, là, on parlait de garde prétorienne, on parlait d'une perspective qui est encore une fois un petit peu plus proche du pouvoir. Ici, j'ai envie de nous amener vers une perspective qui n'est pas dans le pouvoir, mais qui, je trouve, reste assez particulière. Et je veux parler de celle que Marjane Satrapi met en place dans Persepolis. qui, bon, hein, on, de toute façon, ça, je veux dire, on Raymond l'a réglé d'emblée, et je pense que personne, de toute façon, viendrait débattre là-dessus. C'est un extraordinaire chef-d'œuvre, je veux dire, la puissance de ce récit-là est tout bonnement extraordinaire. La qualité aussi, bien sûr, de comment on découvre de l'intérieur, hein, comment c'est mis en place la dictature bon, de Khomeini et des ayatollahs, c'est complètement renversant. Mais ce qui, moi, j'avoue, ce qui m'a frappé particulièrement dans cet album-là, et je ne sais pas si ça a fait ça aussi pour vous, mais c'est vraiment c'est ce regard d'enfant. Ce regard d'enfant qui est tellement intransigeant, tellement polarisant. On est dans un pays qui est en train de virer sur la dictature, je veux dire. Je pense que comme citoyen, tu sais, pour rester en vie, tu ne peux pas ne pas être nuancé. Tu peux pas, tu marches sur des œufs, tu fais attention à ce que tu dis, tu sais, à moins d'être vraiment courageux ou suicidaire. Mais là, on a le regard d'un enfant et c'est tout le temps, c'est tout blanc ou tout noir. Ah ouais, mais il n'a pas été un héros, il n'est pas allé en prison. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il faut. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire comme d'avoir cette perspective-là, parce que là, tout d'un coup, ça nous ramène à l'école. Oui, tu sais, pourquoi le monde ne se révolte pas? Oui, pourquoi le monde... c'est plus compliqué que ça, là.
Ça force à tempérer un peu le regard qui est imposé par le personnage. Et le fait que c'est un enfant implique quand même un regard qui est peut-être plus intelligent, qui est peut-être plus en noir et blanc, parce que à cet âge-là, même si on est capable d'une grande analyse, il n'y a pas la nuance que les années viennent apporter qui est encore arrivée au bout du compte.
Et aussi, sa vision à elle, c'est quand même une famille aisée qui a l'opportunité d'avoir des nouvelles de l'autre monde, de notre monde à nous, ce qui fait que au niveau de la culture, ils sont un peu plus allumés. Au niveau de l'actualité, ils sont un peu plus allumés, cette famille-là, ce qui fait que leur jugement et de ce qui s'en vient ou ce qui est en train de se transformer a beaucoup plus de poids dans cette espèce de balance-là de vision de ce qui s'en vient. En fait, moi, c'est ce que je trouvais le plus intéressant. Si ça avait été une vision d'enfant ou de trucs plus populaires, on n'aurait pas eu la même histoire.
Mais oui, puis on a toujours un peu les deux discours en superposition, justement quand ils entendent les nouvelles officielles à la radio, puis qu'ensuite ils s'intonisent la BBC, les nouvelles officielles. Ah oui, donc on a détruit 30 avions et demi, puis à la BBC, finalement, c'est pas ça du tout. C'est leurs propres troupes qui viennent de se faire détruire 3 avions ou quelque chose comme ça. Puis il y a aussi une superposition entre la personne qu'on est dans le public et la personne qu'on est dans le privé. Donc, dans le public, on va porter le voile, on va être modeste, on regarde personne dans les yeux, alors que dans le privé, ben, on fait le party, on boit de l'alcool, on peut dire relativement ce qu'on pense avec les bonnes personnes. Ça crée une espèce de schizophrénie, j'ai l'impression. C'est quelque chose que j'avais lu aussi dans les bandes dessinées de Manon Yestani.
Oui, non, j'aime bien cette perspective-là. Puis, en fait, si tu ramènes, par exemple, sur la dichotomie entre les nouvelles officielles puis les nouvelles non officielles, ça nous renvoie, parce qu'on parle énormément dans l'actualité de désinformation, un peu comme si Internet l'avait inventé, un peu comme si Facebook l'avait inventé, alors que dans les faits, au contraire, ça a toujours été comme ça. Puis Internet est simplement un outil de plus à contrôler ou pour contrôler, au bout du compte, le débit. Peut-être plus difficile, mais pas nécessairement non plus, si on regarde ce qui se passe dans certains pays actuellement même, autant que dans le passé. Donc, ce double discours-là devient nécessaire pour mobiliser, va venir amplifier justement le schisme dont tu as parlé, le schisme personnel, parce qu'il y a des gens qui, à force d'entendre un mensonge, je sais pas trop, un autre dictateur a sûrement dit à Mané un mensonge 1000 fois répété, ça devient la réalité. Donc, pour eux, finissent par endosser un peu cette perspective-là. On voit des personnages qui utilisent cette perspective-là pour aller chercher un statut qu'eux n'avaient pas auparavant non plus. Il y a un personnage à un moment donné, je pense qu'il réparait des machines ou quelque chose du genre, puis finalement, là, c'est lui qui est le juge de la moralité, justement, de cette famille-là. Donc, les rapports de pouvoir se renversent. Donc, il y en a qui vont en profiter aussi. Et justement, en parallèle, l'identité véritable, au bout du compte, qu'on cache, qu'on vit un peu à côté, comme exutoire peut-être aussi de cette pression-là. Et autant, cet exutoire-là qui est amené pour justifier pour expliquer, pour nous faire comprendre pourquoi à un moment donné, les parents aussi vont dire à leur fille, ben, va ailleurs, quitte le pays, va t'éduquer ailleurs, tu as un avenir, mais ici, on ne pourra pas t'offrir autre chose que justement cette existence duplique un peu illicite parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu tranches dans le rang pour survivre. Parce qu'au bout du compte, c'est de survivre dont il est question, d'autant dans un changement de régime qui est quand même assez violent aussi de la façon dont ça se passe, dont ça s'exprime page après page.
Et qui est drastique, hein, parce que c'est ça, là, je veux dire, on passe de l'Iran du Shah qui était sur les filles en mini-jupe, il n'y avait pas de voix, tout le monde était très occidentalisé, le mode de vie et tout. Et là, bang, tombe cette espèce de couperet-là où, comme on l'a eu en Afghanistan aussi il y a quelques années avec les talibans, où là, du jour au lendemain, toutes ces libertés-là disparaissent. Et non seulement, bon, oui, pour les femmes, mais également aussi pour les hommes. Là, je veux dire, c'est une rectitude religieuse comme ça, extrêmement ferme, qui va se remettre en place et qui ferme justement les perspectives des gens, comme tu le disais, qu'à partir de maintenant, si tu veux avoir un avenir, il faut que tu t'exiles. Mais c'est un constat épouvantable parce que, je veux dire, si tout ce monde-là s'exile, comment ce pays-là peut espérer changer un moment donné, tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait... Et c'est justement la perspective qu'amène Internet qui est intéressante, parce que Internet maintenant est cette arme à double tranchant qui peut très, très, très bien servir sur la désinformation, qui peut la magnifier, et on l'a vu aisément, mais qui, en même temps, par son côté parfois un peu plus clandestin, peut permettre à des gens sous la dictature d'aller chercher justement des contacts ou une information qu'ils ne pourraient pas avoir d'une autre manière, parce que justement tout est contrôlé, tout est fermé. Je veux dire, c'est un des éléments, hein, classiques des dictatures, je veux dire, au-delà du culte de l'image et tout, je veux dire, le contrôle, hein, des médias et de l'information, de la propagande. D'ailleurs, je pense que justement le fameux mensonge, je répétais assez souvent, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Goebbels, ministre de la propagande allemande, hein, sur Adolf Hitler, quand même pas mal de sens.
Oui, puis en fait, à travers tout ça, dans le contexte aussi où Persepolis nous ramène aussi dans le contexte un peu avant que ça se passe. Et dans les autres BD, on parlait tantôt de Judge Dredd, par exemple, mais c'est juste du moment où Cal prend le pouvoir, oups, on vire sur un 17, donc ça dépend d'une personne dans ce contexte-là, alors que dans la réalité, ça dépend aussi d'un groupe de personnes, dans le fond, mais culturellement, socialement, politiquement, c'est des mouvements qui se préparent de façon insidieuse sur des années. Ça, on a l'impression que ça arrive de nulle part, mais dans la réalité, ça n'arrive jamais de nulle part, mais ça arrive sans prévenir. Par contre, et c'est ça qu'on comprend très bien dans Persepolis, et qui, peut-être aussi en contre-pied avec les autres, mais justement nous permet de ramener, un peu comme tu dis d'ailleurs, Édouard, nous permet de ramener un contexte un peu plus terrestre, si on peut dire réaliste, les éléments qui sont amenés par Dredd ou par celui dont on parlera tantôt, qui sont peut-être un peu plus schématiques ou qui ramènent peut-être un peu à, disons, culturellement, dans le fond, qui choisissent de simplifier un peu cet enjeu-là et ce virage capot-là, donc qui paraît peut-être un peu plus spontané, mais qui probablement, dans les mythologies larges de ces éléments-là, devait aussi se préparer puis jouer en coulisses au fil d'albums, d'années ou de rêves qui ont précédé l'action.
Ce qui est, je pense aussi, d'autant plus saisissant, appuyé par le dessin de Marjane Satrapi, que parce que bon, on n'a pas beaucoup parlé de dessin ce soir encore, que bon, avec Bruno un peu, mais il y a ce dépouillement, parce que bon, la BD est en noir et blanc, d'un trait quand même, je dirais, naïf, hein, presque enfantin, ce qui est magnifiquement à propos pour la perspective justement qu'on présente, mais aussi qui nous donne, je pense, un écho de cette sobriété religieuse qui va être imposée comme ça, qui va venir balayer, si on veut, un peu les couleurs de la vie, en quelque sorte, hein, parce que là, tout va se décliner en noir et blanc, et tout va se décliner en noir et blanc aussi bien dans les vêtements, mais aussi justement dans l'attitude. Bon, on va parler de cette police religieuse aussi, hein, qui va être mise en place, qui va comme ça aller de par les rues, qui va déterminer, hein, qui est correct, qui l'est pas. Donc, il y a quand même comme tu disais, moi aussi, je disais derrière ça, tout ça ne peut pas être le fait que d'un seul homme, tout ça ne peut pas être. Il faut qu'il y ait une complicité à quelque part, il faut qu'il y ait une volonté populaire que ce pouvoir-là soit mis en place. Et c'est peut-être en fait là où réside tout le génie du Schtroumpfissime, qui est. Je veux dire, on ne peut plus. Je veux dire, c'est le dictateur élu, je veux dire, c'est Adolf Hitler, là. C'est exactement les gens qui portent au pouvoir leur propre chaîne. Mais en même temps, ces gens-là, justement, comme avec Hitler, se font remplir d'un paquet de promesses. Tout le monde se fait dire ce qu'il a envie d'entendre et c'est comme ça qu'on va chercher cette complicité. C'est comme ça. Et même, tu sais, vous voyez, comment Peyot est absolument génial, tu sais, quand le Schtroumpfissime est élu. Et là, les premiers qui l'ont appuyé viennent le voir pour lui demander leur dû. Ah ben souvent, ils ne leur donnent pas, mais ils comprennent. Ah ouais, je vais te mettre au pouvoir. Je vais te mettre au pouvoir. Donc, c'est la carotte puis le bâton. C'est, c'est toujours la même chose. On va aller capitaliser sur l'avidité des gens d'une certaine, appelons-le, élite, hein, de certains apparatchiks comme ça qu'on va garder. Et c'est ça qui nous permet de rester au pouvoir. Et ça donne, encore une fois, que je veux dire, de toute façon, Peyot, hein, quel magicien de la case, c'est absolument, absolument extraordinaire la façon dont il va faire cette allégorie de la dictature. C'est comme Goscinny l'avait fait avec le capitalisme, genre avec Obélix et compagnie, des choses comme ça. Je veux dire, on pourra enseigner aux enfants qu'est-ce qu'est la dictature avec cet album-là. Tous les éléments sont là. C'est extraordinaire.
C'est un guide. C'est un guide de la dictature. Comment procéder étape par étape? C'est-à-dire même que, bon, au début, c'est démocratique. Et d'ailleurs, on se pose la question, le grand Schtroumpf se pousse pour aller cueillir je ne sais pas trop quoi. Et est-ce que c'est lui qui est le dictateur des Schtroumpfs, des 99 Schtroumpfs du village?
Mais c'est une dictature éclairée.
Oui, mais il est quand même le boss. Il part et là, tout devient un peu chaotique. C'est-à-dire que là, ça prend quelqu'un pour mener. On veut faire des élections, mais là, le Schtroumpfissime, ce fameux Schtroumpf, décide que il va faire des promesses qu'il ne tiendra pas, comme Édouard le dit. Il va, un coup qu'il est au pouvoir, il va donner du pouvoir aux autres. Et là, il va avancer. Tout devrait bien aller, mais là, il y a une résistance qui naît. Cette résistance-là, ces rebelles-là, il faut abattre la résistance. Alors, c'est vraiment un petit guide de tout ce qui pourrait se passer. Je pense que Trump aurait dû lire le Schtroumpfissime avant de
peut-être qu'il l'a lu.
Il l'a peut-être lu, mais il l'a pas appliqué complètement.
Mais en fait, c'est clair que l'idée dès le départ, en fait, des promesses vides un peu, puis au bout du compte, c'est que ça nous ramène au degré zéro. Je veux dire, c'est le pouvoir pour le pouvoir, au bout du compte. Donc, c'est la quête du pouvoir pour la fonction du pouvoir pour être le chef. Mais au bout du compte, dans un vide absolu d'un point de vue idéologique, autant négatif que positif, lui ne veut que se retrouver chef des Schtroumpfs. Dans le fond, sa première action, au bout du compte, n'est que pour asseoir son statut de chef. Dans le fond, il va chercher un costume en or, il va se faire construire un palais, il va se mettre une cape et une couronne. C'est littéralement l'objectif, au bout du compte. Et ce n'est qu'après ça qu'il se rend compte qu'il y a un pays à gouverner, au bout du compte, qu'il y a des promesses qui techniquement seraient à tenir. Et là, on se retrouve un peu comme au bout du compte dans les autres livres, en fait, dont on a parlé, où, je pensais à Dredd, par exemple, avec Cal, le moment où il détruit la ville par impuissance. Mais c'est un peu ça, au bout du compte. Dans le fond, il se retrouve au-delà, il n'y a plus de projet au-delà de gouverner. Éventuellement, il est cantonné parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour assouvir un peu les demandes de son peuple. Puis finalement, le Schtroumpfissime, sa réaction, c'est de monter une garde. C'est OK, on va les tenir, on va virer Judge Cal, puis on va mettre des lois. Et là, oups, on se retrouve un peu dans cette dynamique de domination-là. Puis le reste s'ensuit aussi. Et au bout du compte, ce n'est que le retour du grand Schtroumpf qui ramène à la raison et qui fait prendre conscience à ces gens-là à quel point, au bout du compte, ils ont vécu un délire qui a pas de sens, où c'est une lutte de pouvoir pour le pouvoir qui était exempte de projet pour le village des Schtroumpfs, au bout du compte.
Parce que bon,
le plus grand...
Oui, vas-y, Marco.
Non, ce que je voulais dire, c'est le génie, le génie de Peyo, parce que c'est un génie, c'est la dernière case. Où là, tout est revenu à la normale et tout le costume du Schtroumpfissime sert comme épouvantail. Dans le milieu d'un champ, on a mis la cape, le costume or et le sceptre à un épouvantail. Et c'est ça, une dictature. Une dictature, c'est un épouvantail, c'est quelque chose qui sert à faire peur. Tu sais, un épouvantail, ça sert à faire peur aux corbeaux dans les champs. Et c'est ça. La dernière image, c'est vraiment un épouvantail avec le costume du Schtroumpfissime. C'est comme dire, ben voilà, un dictateur, c'est vraiment un épouvantail.
Oui, j'avais perçu un peu comme le souvenir aussi du dictateur. Dans le fond, se rappeler jusqu'où on a été pour rien, au bout du compte. Pour éviter de retourner là, pour peut-être éventuellement espérer, rêver, apprendre de l'histoire, ce que l'humanité n'a pas encore été apte à faire depuis son émergence.
C'est bien affaire quoi.
Tu sais, je pense qu'il y a un ridicule aussi, justement, qu'on peut mettre à travers cet exercice de pouvoir. Parce que bon, reste que. Peyo dédouane un peu ces Schtroumpfs, hein, parce qu'on dit, oh, bon, tu sais, le grand Schtroumpf le reproche, je disais, vous vous êtes comportés comme des humains. Donc, hein, ce n'est pas naturel chez les Schtroumpfs de délirer comme ça. Il y a toujours cette bonne entente. Hein, et oui, puis Marco, je trouvais ça intéressant l'idée justement de dire comment, sur quoi repose, dans le fond, le pouvoir du grand Schtroumpf, qui lui est juste le plus sage, le plus vieux, mais je veux dire, tout ça n'est qu'un consensus, même comme disait lui, un despotisme éclairé, parce qu'on suit le grand Schtroumpf parce qu'on sait qu'il va prendre les bonnes décisions. La preuve étant que s'il part comme ça, hein, justement, sans avertir, ben là, tout d'un coup, on est complètement perdu, on ne sait plus pantou où on s'en va, et on se met à se comporter comme des humains. Mais je veux dire, au-delà de ça, ce qui, moi, me frappait aussi, peut-être parce que justement maintenant, tu sais, je le lisais avec mes yeux d'adulte, qui n'était pas une perspective, peut-être que j'avais, c'était la dureté du discours derrière tout ça, qui chouait. Et je veux dire, c'est battez-vous jusqu'à la mort, tu sais, puis vous êtes des Schtroumpfs, mais on sait que vous êtes prêts à mourir, tu sais, Dulce et Decorum, mais c'est pas pour Patria Mori, là, je veux dire, c'est pas. Il est doux de mourir pour la patrie. Il y a quand même. Une, je sais pas, de puissance narrative, c'est comme, après, tu remets ça, c'est comme, mon Dieu, écoute, Peyo, tu prenais pas les enfants des imbéciles, là, puis tu les as amenés, je trouve, loin dans ce qu'était la tyrannie, justement, du pouvoir, mais c'est là, ça va jusque-là, là, c'est le frère contre le frère, c'est c'est la répression, c'est l'interdiction de parler, d'avoir une opinion qui est contraire. Puis je veux dire, la satire avec le fameux Schtroumpf farceur, quelle allégorie extraordinaire, parce que Dieu sait que la satire, c'est souvent le dernier moteur des opprimés contre la dictature. Je veux dire, quand on parlait, tu sais, de BD argentine, des gars comme Brecchio, justement, je veux dire, c'est de Pyramus, c'est ça, là. C'est de la résistance, mais c'est la satire, c'est la dernière arme des opprimés. Et là, encore une fois, Peyo comprend tellement bien le mécanisme de la chose. Je veux dire, c'est avec son Schtroumpf farceur qui est emprisonné parce que là, il blague, mais pour une fois, il blague sur le régime, puis ça marche pas. T'sais. C'est extraordinaire, extraordinaire.
Oui, mais c'est le seul qui fait quelque chose à chaque fois.
Oui, puis à l'inverse, en fait, un peu le Schtroumpf à lunettes qui est lui là pour. Qui cherche un rôle, dans le fond, du début à la fin, puis qui essaie simplement d'émuler. Dans le fond, il veut prendre le pouvoir, il veut faire comme le Schtroumpf farceur, il veut devenir un héros, il veut devenir le défenseur du Schtroumpfissime. Donc, qui devient lui l'allégorie de tous ceux qui courbent les chines devant un peu n'importe quoi, dans le fond, simplement pour avoir un statut quelconque. Peu importe pour qui, pourquoi, là, dans le fond, ils veulent avoir un statut, puis leur ambition se limite à ça, un statut sans valeur, sans implication personnelle au-delà justement de cette quête de statut-là. Non, il y a vraiment de la richesse. C'est surprenant à chaque fois que je relis. Et je pense que ça fait. C'est pas la première fois, Marco, que tu nous proposes un album des Schtroumpfs. Et je suis toujours scié à chaque fois dans. Tu sais, je veux dire, quand tu vas au-delà de je vais schtroumpfer le Schtroumpf du Schtroumpf qui Schtroumpf, mais il y a tellement de substance là-dedans. C'est fascinant.
Mais parce que justement, encore une fois, avec l'excuse du Schtroumpf, il peut passer des discours, il peut passer des. Tu sais, c'est comme ça, c'est fou, là. C'est fou ce qu'il va. Mais. Et puis, comment c'est organisé, comment ça se décline, comme vous dites, tu sais, je veux dire, j'ai rien, justement, tu sais, comme Persepolis, tu sais, on sentait quand même un peu la naïveté de Satrapi, tu sais, la volonté de présenter des choses, mais je veux dire, là, il y a une construction, il y a un rythme, tu sais, c'est les gars des grandes écoles, du puits, c'est extraordinaire, c'est, là.
En fait, tu sais, il faut voir à quelle époque, tu sais, on dans l'histoire de la BD, quand la BD commence à s'adresser à des adultes, on le situe tout le temps à la fin des années 60, où là, les auteurs voulaient s'adresser à des adultes, ils voulaient faire de la BD pour adultes. Mais avant ça, même l'école franco-belge, tous ces auteurs-là qui s'adressaient à une jeunesse avaient quelque chose à dire. Et avaient quelque chose à dire, et ils avaient l'opportunité de passer ces choses-là. Tu sais, c'est pas rien que Peyot, là. Il y a aussi Spirou, il y a aussi toutes ces séries-là, où même les Tuniques bleues, qui met en scène deux soldats de la nordiste pendant la guerre de Sécession, où là, dans les premiers albums, on voit bien qu'on a une vision de la guerre, de la guerre civile entre frères. Et certains albums font un constat de cette guerre-là assez virulente. Même si ça s'adresse à des enfants et tout, il y avait quand même des messages qui se passaient. Et à mon avis, tu sais, la BD est devenue adulte dans les années 60, mais tout ce temps-là, les messages se passaient quand même, et Peyot en était un des porte-drapeau le plus important de cette génération.
Alors, en fait, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ces titres-là parce que, à ma foi, c'était un chouette club de lecture ce mois-ci. Alors, je rappelle, en fait, on a lu Le Schtroumpfissime de Peyot chez Dupuis, donc une aventure des Schtroumpfs. On a lu également Z, une tragédie africaine d'Apollo et Bruno chez Dargo. On a lu Persepolis de Marjane Satrapi à l'Association. Et également, on a lu Judge Dredd, donc le jour où la loi est morte, scénario de John Wagner, avec au dessin Mike McMahon, Brett Ewin, Brian et plusieurs, et Ron Smith, voilà, donc entre autres, qui ont collaboré à tout ça. Donc c'est disponible d'ailleurs dans l'intégrale, donc les affaires classées, le troisième tome chez Delirium, entre autres. Et qui ont lu, donc c'est Émilie Roy-Brière, c'est Marco Duchesne, c'est Édouard Tremblay. Merci à vous trois.
Un plaisir, mon ami.
Plaisir.
Et c'est Raymond Poirier au micro. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de La vie en BD.